prenait le temps. Le temps d'une rencontre, d'un portrait sans l'image mais avec le son. Le temps de discuter avec un homme, une femme qui mêle intimement sa vie à l'art. C'est d'abord l'humain qui m'intéresse dans un projet, sa racine, sa source, l'envie première, nous dit Lisa Bélangeon, notre invitée aujourd'hui. L'envie première, celle qui, alors qu'elle n'a que 11 ans et qu'elle vient d'assister à un concert de Zebda, la conduit à rêver secrètement, sans y croire du tout, qu'un jour elle travaillerait dans le milieu musical et artistique. Aujourd'hui, la voici coordinatrice générale d'Au fond de la rue, à Saint-Nid-Gatine. Depuis 2017, Lisa met son énergie, ses valeurs et ses convictions fortes au service de cette association formidable qui s'appuie sur une non moins formidable équipe de 5 salariés et plus de 1200 bénévoles pour organiser le tout aussi formidable festival Au fond de la rue. Un festival pionnier à bien des égards, maintes fois récompensé et encore dernièrement d'ailleurs pour son caractère éthique et innovant, un festival qui fêtera sa 22e édition dans près d'un mois, les 7 et 8 juillet prochains. Bonjour Lisa.
Bonjour.
Alors à J-1 mois justement, est-ce que tout va bien? Est-ce que le festival est bien sur les rails? J'imagine que oui.
Oui, heureusement.
Vous êtes en plein dedans là j'imagine.
Oui, le rush a commencé.
Alors on y reviendra, on pourra en parler plus longuement bien sûr, mais Au fond de la rue c'est une association qui a aussi plein d'autres projets. Dont une saison de concerts, d'événements. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est un peu la face cachée de l'iceberg que tout le monde ne connaît pas forcément.
Ouais, qu'on voit moins puisqu'on l'adapte plutôt à notre territoire, on va dire...
C'est plus local.
Plus local, exactement. Puisque sur le festival, on fait déplacer 15 000 personnes, mais au quotidien, on est sur un petit territoire rural. Donc l'idée, c'est d'avoir des propositions au moins une par trimestre de concerts, d'art de rue, tout dépend un peu des formats. Ça va de septembre à mars. Là, ça a un peu évolué ces dernières années. On réduit un peu parce qu'on a aussi d'autres projets encore plus cachés.
On va en parler des projets cachés. On va avoir le droit.
On aura le droit.
Et c'est l'occasion aussi de plein de partenariats parce que c'est ça un peu le fond de la rue. C'est aussi, vous faites jamais presque, vous faites rien tout seul en fait. Et
non,
cette
c'est
saison,
vrai.
C'est aussi l'occasion de bosser avec... des assos locales, des structures locales.
Ouais, la saison culturelle. La saison culturelle de, ouais, de rencontrer un peu tous les partenaires du territoire, quel que soit d'ailleurs leur secteur d'activité.
Et les projets cachés, alors on va en parler, j'y viens tout de suite, parce que là, en fait, on n'est pas au bureau d'Au fond de la rue. On est dans un lieu qui... Est-ce qu'on peut déjà l'appeler la station? En tout cas, qui s'appellera la station. Donc là, en fait, est-ce que tu peux décrire d'ailleurs la pièce où on est, cette future station?
Exactement. Alors là, on est dans notre sas qui va accéder aux ateliers. Donc d'un côté, on a une vue sur le futur atelier polyvalent, atelier bois. Et on aperçoit l'atelier métal avec une ancienne forge. Donc c'est encore dans son jus. Hein, les pierres, on est à même le sol. Enfin, on est sur des chaises, mais le sol est encore... tout jonché de poussière, vraiment les futurs ateliers où on pourra accueillir les structures dans de bonnes conditions et puis nos bénévoles pour la construction des décors et des scénographies du festival.
En fait, on est au centre-bourg de Saint-Nid-Gatine, dans un ancien garage.
Exactement.
Qui a été racheté il y a peu par l'association.
Ouais, il y a 2 ans.
Ouais, ouais. Alors, vous avez simplement dénudé les murs, vous avez dégrossi, on va dire.
On a dégrossi, ouais. Là, on a fait un gros dégrossissement parce qu'on a cassé aussi certains bâtiments.
Alors, mais... On peut se promener un petit peu dedans. Il y a déjà, effectivement, tu le disais, un grand espace ici qui était sans doute la partie de l'ancien garage, la partie atelier, qui sera l'atelier bois, comme tu le disais, parce que c'est vrai que ce lieu, ça ne sera pas juste un lieu de bureau pour l'équipe d'Au fond de la rue, ça sera aussi un lieu d'atelier parce que c'est une activité forte pour le fond.
Bah, qui est très fédératrice, en fait, c'est un projet qui date de 2015, donc bien avant que j'arrive, de trouver un lieu où on pourrait réunir nos bureaux et nos ateliers de construction parce qu'à l'année, c'est vraiment un espace de vie important pour nos bénévoles. Et aujourd'hui, les conditions sont pas... elles sont précaires, on va dire. Donc l'idée, c'était de gagner en confort et puis de réunir tout ce petit monde-là pour gagner encore plus en émulation à la
En synergie. Et tu parles de construction. Alors, tout le monde ne sait pas forcément ce que vous construisez. En gros, la construction, c'est d'abord pour la déco, en fait.
Exactement.
Les structures de décoration, mais pas que, les bars, tout ce qui va
Ouais, quand on voit notre festival, c'est encore très do it yourself, justement, où les bars, c'est vraiment des structures qu'on a construites avec du bois de récupération.
Ouais.
Les toilettes sèches, il y a beaucoup de toilettes sèches sur le festival qu'on a construit aussi nous-mêmes, enfin je dis nous au sens équipe large, hein. Mais voilà, il n'y a pas que les éléments de scénographie, il y a effectivement aussi pas mal de structures qu'on construit de A à Z selon les besoins chaque année.
Ouais. Et donc ici vous aurez un atelier parfait pour justement accueillir les équipes de bénévoles qui construisent toutes ces structures, mais l'idée c'est aussi d'ouvrir le lieu, j'imagine, et que ces ateliers-là ils soient aussi ouverts à des artisans, puisque en fait ce lieu il va se définir comme un tiers-lieu. Le mot tiers-lieu est très utilisé, peut-être qu'on pourrait le définir aussi, mais c'est, l'idée en tout cas du tiers-lieu, c'est d'ouvrir, de mutualiser.
C'est ça, enfin, la base du tiers-lieu, à l'origine, on va dire, c'était vraiment ce lieu qui n'est ni le travail, ni un lieu de loisir, mais qui mélange un peu les deux. Il est de plus en plus galvaudé parce que finalement, maintenant, on appelle un peu un lieu qui ne rentre pas dans une case, on l'appelle tiers-lieu.
Voilà.
Ça commence un peu à être, m'embêter aussi, parce que ça devient un mot valise.
Ouais.
Mais en tout cas, ouais, nous, ça nous correspond quand même bien sur ce côté où c'est des lieux qui peuvent aussi beaucoup évoluer en fonction du projet, des besoins et voilà, de l'activité qu'on doit y développer. Donc nous, il y a l'idée qu'il y ait des artistes qui viennent en résidence, des artisans qui veulent tester une activité, des scénographes, nos bénévoles et puis toutes nos structures d'action culturelle aussi qui participent énormément à la construction de décors, bah, qui puissent aussi venir. On n'est pas très loin de l'EHPAD avec qui on travaille.
Ouais, donc le public avec lequel vous travaillez, ouais, les scolaires, les personnes âgées qui peuvent venir ici aussi.
Complètement.
Et est-ce qu'il y aura vraiment d'autres activités hors de celle du fond de la rue? Ça sera plutôt des prêts momentanés, ponctuels?
Oui, voilà, c'est ça. Pour l'instant, on va essayer de jauger un peu nos besoins et à quel point il va être utilisé. Mais on discute déjà, par exemple, avec la saison culturelle de comment ça pourrait leur servir aussi dans le cadre d'accueil en résidence, puisqu'on le fait déjà de manière peu significative, mais ça peut arriver que nos ateliers actuels, qui sont pas très confortables, on va dire, servent sur des résidences de marionnettistes, tout ce genre de choses, parce qu'il n'y a pas d'atelier pour l'instant sur le territoire.
De construire, en fait.
Exactement.
Voilà. Okay. Alors ça, cet espace-là, l'atelier, il est quand même hyper spacieux, ça fait combien de mètres carrés ça?
Là, l'atelier dans lequel on est, il fait 140 mètres carrés, il y a au moins 4 mètres, je crois, là, sous les poutres, et puis il y aurait une petite mezzanine en plus pour du stockage.
Effectivement, d'avoir une sorte d'étage. On va pouvoir passer aussi dans la forge, comme tu disais, parce qu'effectivement, si c'était un garage, donc il y avait aussi une partie, on va dire, pour forger, pour fondre le métal, et que vous allez utiliser aussi
en atelier,
pour le festival.
Tout à fait. Ouais. Ça va devenir vraiment la pièce métal, puisque comme notre volonté, c'était de pouvoir accueillir tout le monde, on se met des grosses contraintes d'accessibilité, et notamment de normes d'accueil public.
Ouais.
Donc, dès qu'on parle de travail de métal ou de flamme, on ne peut pas tout faire au même endroit. Donc, il y avait besoin de délimiter vraiment une pièce pour le travail du métal spécifique.
Ouais.
Okay. Donc là, on est sur 40-50 mètres carrés qui servira que à ça.
Avec déjà deux cheminées qui sont là et qui pourront être recyclées, parce que c'est un peu le mot d'ordre.
C'est le mot d'ordre, mais il y a un gros débat autour de cette forge
d'accord.
Au sein de
l'association. Il y a encore des choses à régler. Donc là, on passe par l'extérieur, donc c'est un bâtiment, vous avez la date un peu d'ailleurs
Alors,
de l'époque, c'est un bâtiment en pierre.
Je ne l'ai plus en tête parce qu'en plus ça a été fait, et on voit bien,
il y a plusieurs
époques, des rajouts, etc. Je ne sais pas exactement, mais le père d'un de nos bénévoles a fait son apprentissage ici, donc quand il est venu le visiter, c'était plein de souvenirs. On a plein de bénévoles qui ont des histoires parce qu'ils y ont habité, ils sont presque nés, enfin, c'est ça qui est rigolo aussi.
Ouais, ok. Alors, on va pouvoir passer dans la partie bureau. Je vais ouvrir la porte. J'essaie de pas faire de bêtises. Voilà. Et donc, ici, on est à l'accueil. On sera le futur accueil du foin.
Exactement.
Des locaux du foin, de la station. Avec les murs que vous avez nettoyés, que vous nous avez enlevé le vieux papier peint, tu me disais. Et puis, il reste un bel escalier en bois, là, au milieu, qui va pouvoir aussi desservir l'étage. Donc là, on est sur un espace aussi assez spacieux qui se poursuit à l'étage. Sur plusieurs centaines de mètres carrés, vous aurez des beaux bureaux spacieux.
On aura de l'espace.
Ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce dont vous manquez un peu.
Ouais, on est vraiment très à l'étroit, puisque finalement, ça fait plus de 10 ans que les bureaux de l'association sont hébergés par le Cube, qui sont les studios de répétition de la commune. Nous, on a racheté une extension en 2017, plutôt provisoirement, en attendant de mettre au point ce projet. Mais quand on monte à 12, on a à peine 50 mètres carrés pour tout se tenir, pas de salle de réunion, ça devient un petit peu serré, effectivement.
Ouais. Alors c'est un projet pour lequel vous avez réussi à réunir pas mal de financements européens, nationaux, régionaux. C'est un projet à 600 000 euros quand même pour la réhabilitation de cet espace qui va, vous espérez, voir le jour, enfin ouvrir ses portes en automne, à l'automne 2024. C'est bien ça?
Oui.
Et à l'automne 2024, quand la station ouvrira, la commune de Sainte-Ligatine pourra se targuer d'avoir trois tiers-lieux, puisqu'il y a deux autres tiers-lieux qui ont vu le jour ici, la bagagerie, la passerelle déridée. C'est quand même assez exceptionnel, ça doit être une exception nationale, même qu'une commune de 1500 habitants possède trois tiers-lieux. Et ça montre bien, je trouve, la singularité et la dynamique de ce village très très étonnant. qu'est Sainte-Gatine.
Ouais, et puis qu'on voit bien nous au quotidien, enfin, en fait, comment les projets se montent, c'est pas anodin et c'est pas lié au hasard qu'il y en ait trois, puisque tous sont liés un peu les uns aux autres. Nous, on travaille beaucoup avec l'EHPAD et ils ont eu ce besoin d'avoir une salle en plus pour accueillir les familles et faire des activités, qui est quelque part lié aussi au fait que nous, tous les ateliers pour l'instant de déco qu'on fait avec l'EHPAD, ça a lieu chez eux. Mmh. Le projet de la bagagerie,
ouais,
on y était. Ouais, il y a une émulation
permanente
et on le voit bien, la bagagerie aujourd'hui est vraiment beaucoup utilisé par les associations et nous-mêmes, puisque comme on manque d'espace, on va un peu squatter chez eux aussi.
Super, bon voilà, le décor est posé. On peut démarrer. Transistor l'émission, c'est parti. Premier choix musical de notre invitée Lisa Bélangeon, coordinatrice d'Au fond de la rue. Alors pourquoi ce choix musical, Lisa ? Alors tu m'as dit pour justifier que c'était toute ton enfance.
Ouais, c'est vrai. J'ai été bercée par The Who, Led Zeppelin et j'en passe. Et bercée parfois violemment parce que c'est aussi des souvenirs de... enfin violemment, gentiment. Ouais,
c'est pas des berceuses quoi.
Ouais, non, c'est pas des berceuses, mais c'est des souvenirs de fêtes de mes parents où à la fin, les hommes nous prenaient. On avait 5-6 ans avec les copains et ça virait au rugby d'enfants quoi. Et j'ai des super souvenirs en fait de ces fêtes-là où on adorait ça. Et puis j'ai toujours d'ailleurs un père mais très branché musique et on avait le droit à des blind tests quasiment tous les dimanches midi avec ma sœur, donc il fallait vraiment bien réviser notre culture musicale, on n'avait pas le droit à l'erreur. Ça rigolait pas sur l'historique rock, il fallait vraiment reconnaître les morceaux très vite quoi.
Ok, donc la musique vous l'écoutiez à la maison, sur la chaîne IFI, en voiture, et vous biberonnait pas à la variette quoi, c'était plutôt rock alternatif.
Et puis après toute la chanson française alternative, il était commercial donc il bougeait beaucoup à l'époque où les FNAC étaient encore vraiment des disquaires, donc il découvrait beaucoup de choses.
Les imports et tout ça.
C'est ça. Ouais, et il en ramenait et c'était très varié, mais effectivement pas très. Par contre, en variété française, je suis absolument nulle pour le coup. Il a fallu que je reconstruise certaines quand même cultures de ce côté-là, mais plutôt rock et rock alternatif. Quoi.
Et à cette époque-là, tu grandis d'abord en région parisienne, puis après vous allez migrer plutôt vers Lyon, la banlieue lyonnaise.
Exactement.
Et c'est à ce moment-là, quand tu as une dizaine d'années, que sans doute grâce à ton père aussi, j'imagine, tu vas aussi découvrir la musique, mais côté live. Quoi.
Ouais, exactement. J'ai le droit d'aller faire mon premier concert, ou le premier avouable, hein, parce que j'ai fait le concert d'Hélène, comme beaucoup de gens, je pense, de ma génération. Mais les premiers, on a vraiment envie, on va dire, c'est Zebda, effectivement, au Zénith.
C'est pas mal comme premier
vrai
concert.
Ouais, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Et puis on déménage dans une région où c'est facile de sortir, il y a encore beaucoup de MJC qui organisent des choses, il y a des festivals, et puis on est justement dans la période plutôt de la chanson française alternative, donc du coup on est quasiment tous les week-ends, je pense, en concert, beaucoup tous les deux, c'est beaucoup une histoire tous les deux.
Ouais, c'est papa qui t'emmène au concert.
Ouais, c'est ça.
Et c'est trop bien, vous partagez un truc ensemble.
Ouais, c'est ça. Et effectivement, devant les concerts, j'ai très vite ce truc de me dire, j'aimerais bien être derrière la scène. Mmh, à l'époque, je ne sais pas plus que ça. Je ne connais pas les métiers qui sont liés, mais je ne sais pas, j'ai ce rêve un peu de j'aimerais bien débriefer des concerts, savoir comment ça se passe, de regarder le public, d'être vite dans le côté coulisses plus qu'absorbé par le concert. Quoi.
Qu'est-ce qui t'attire, à ton avis, et qu'est-ce qui attire la gamine de 11 ans dans ce milieu-là ?
Franchement, je ne me l'explique pas encore, parce que j'ai vraiment que ce souvenir flou de l'attirance, mais de l'envers du décor, du débrief, même pas du côté organisationnel, parce que quand on me connaît, on peut vite penser que c'est le côté très organisation et projection que je découvrirai plus tard et avec plaisir, mais... À cette époque, je sais pas. C'est le fait de partager, je pense, un côté plus intime avec les gens qui sont sur scène
j'ai jamais le côté fan.
Pas être spectateur, pas avoir le côté de devoir aller discuter après le concert sans savoir trop quoi dire à l'artiste parce qu'on le connaît pas. Mais avoir plutôt cette envie de partager justement une certaine intimité et de débriefer. À l'époque, je me souviens que de ce truc-là.
Alors, tu dis au départ que c'était un rêve un peu secret auquel tu crois pas du tout. En même temps, ça va vite se concrétiser par la volonté de faire ton métier de ça, puisque tu vas faire des études qui vont prendre cette direction. Avec au lycée, tu vas prendre une option artistique.
À la base, je vais plutôt être architecte d'intérieur ou scénographe, donc je me destine plutôt à ça
et plutôt
aux espaces. Ouais.
Donc, ce qu'on retrouve là avec
Finalement qui revient
là,
travailler des plans là-dessus, c'était rigolo. Et puis en fait c'est au lycée pour le coup où, à côté de ça, j'ai toujours été beaucoup déléguée de classe, beaucoup impliquée sur des choses et me retrouver plutôt dans le côté organisationnel d'événements. Et c'est vraiment au lycée que la bascule se fait, me dire que je veux travailler dans un côté plutôt d'organisation d'événements et tant qu'à faire plutôt culturel parce que la musique elle est quand même toujours là. Je dis culturel comme ça m'ouvrait plus de champs, mais là en fin de lycée on a vraiment quand même dans un coin de tête l'idée que le culturel pourrait devenir la musique actuelle éventuellement pour être plus précis quoi.
Et j'imagine que du côté de tes parents, pour le coup, vu ce que tu me racontes de ton père, ça devait pas être une orientation qui leur posait problème.
Non, là-dessus j'ai vraiment eu la chance d'avoir des parents hyper ouverts. Ma sœur elle a pu faire des études de stylisme, moi plutôt dans la musique. Ils nous ont plutôt laissé vraiment, tant qu'on allait dans ce qui nous intéressait, ce qu'on aimait, on pouvait y aller, il n'y avait pas de crainte et pas de recadrage quelconque. Donc ça a laissé effectivement pleine liberté pour rêver et concrétiser quoi.
Donc après le bac, tu suis un peu la filière classique pour les gens qui vont travailler dans le milieu culturel. Tu fais une licence art du spectacle à la fac.
Ouais.
Ça, c'est à Grenoble.
C'est à Grenoble, ouais.
Ouais. Et puis une licence pro à Metz.
Ouais, exactement. La première du genre, c'était la première année où s'ouvrait une licence vraiment dédiée à administration et production musique actuelle.
Là, on est en 2008-2009.
Ouais, ça devait être ça, de je sais jamais, mais je crois que c'est ça, 2009-2010, peut-être même plus précisément, parce que mon stage commence en 2010, justement.
Ouais, et vite fait, en 2010, tu vas trouver du travail.
Ouais, c'est ça, bah, je suis stagiaire. De... Non, ouais, j'ai jamais connu le chômage encore, comme quoi, justement, tous les amis de mes parents qui disent « Ah bah, finis intermittente au chômage », je n'ai pas connu le chômage depuis.
Non.
Et non, ouais, je suis prise en stage donc dans la structure, l'association des Blaireaux de Ravel, qui est un groupe de musique, justement, chanson française, et qui avait une particularité de fonctionner vraiment comme une compagnie de théâtre, quoi, en autoproduction. Et ils cherchent une stagiaire à ce moment-là. Ils avaient fait une demande d'emploi tremplin, et qui, du coup, ils ont obtenu le financement. Donc moi, j'étais en stage de mars à juin.
Le fameux stage qui se transforme en boulot.
Exactement, celui dont on rêve tous. Bah, j'ai eu la chance, effectivement, que ça se concrétise comme ça. Ouais. Et je suis restée 7 ans avec eux, voilà, jusqu'à mon arrivée au foin.
Et toi qui rêvais justement de côtoyer des artistes, pour le coup, là.
Là, je l'ai eu à 100%. J'ai bien découvert effectivement l'envers du décor et ce qui se passe derrière la scène et comment on arrive sur scène. J'ai bien pu tout découvrir.
Alors, les Blaireaux de Ravel, on peut dire que c'est un joyeux bazar musical qui a l'image. Il y avait toute cette scène que tu évoquais tout à l'heure de la scène rock, chanson alternative française. Il y a eu les Ogres de Barbac, les Hurlements de Léo. Et dans tous ces groupes-là, en fait, finalement, mélangeaient plein d'ingrédients musicaux, de chansons, beaucoup, c'était un peu la base, de rock aussi, de jazz, et puis pour les Blaireaux de Ravel, il y a aussi une forte dimension musique d'Europe de l'Est. Mmh. Mais plutôt qu'en parler, le mieux, c'est encore d'écouter les Blaireaux de Ravel.
Thank you.
le blaireau de Ravel en 2014. C'est en travaillant pour et avec les musiciens de ce groupe, Lisa, que tu as fait tes premières armes. En gros, que tu as appris ton métier parce que tu sortais des études et voilà, on sait qu'on apprend la théorie, mais...
C'est ça, et après terrain, on découvre la pratique sur le terrain. Ouais. Et effectivement, bah, moi j'étais la première salariée permanente, donc la seule. J'arrivais dans le métier, donc oui, autant dire que ça a vraiment la richesse d'être, de pouvoir être très polyvalente sur toutes les missions et les tâches, donc on découvre tout en même temps.
Tu faisais tout.
Je faisais tout, l'administration, les recherches de subventions, la communication, mais après il y avait des choses qui pouvaient ressembler aussi finalement sur le fonctionnement du fonds aujourd'hui, c'est que les musiciens, comme c'était leur association, étaient aussi impliqués, donc il y a des choses sur lesquelles ils venaient en renfort, des relectures de dossiers de subventions, la communication, enfin voilà.
Et puis tu étais vraiment au service du projet,
ouais,
leur projet.
Complètement, c'était vraiment l'idée, et puis c'est un peu ça à chaque fois qui caractérise mes postes, mais il y avait cette idée-là, c'était très collectif, donc je n'étais pas laissée toute seule dans un bureau, il y avait vraiment cette dimension collective qui était très forte.
Ouais, et puis vous appreniez peut-être ensemble en fait.
Ouais, on apprenait énormément de choses ensemble. Je pense qu'il y a des choses que j'ai pu structurer aussi, même si j'étais encore toute jeune. Bon, ils m'en voudront pas, mais le côté administratif des musiciens, c'est quand même pas non plus, même quand on débute, on peut avoir un peu de longueur d'avance. Donc il y a des choses que j'ai pu mettre en place, découvrir. Ouais. Et ouais, c'était super en termes d'expérience. On a quand même monté des projets qui sont allés à Avignon, on était 18 là-bas, donc aussi des grosses productions à mettre en œuvre. On apprend énormément de choses.
Il y a une dimension scénique forte aussi dans ce projet-là, presque théâtrale. Ils ont aussi bossé avec les arts de rue.
Complètement.
Et puis, ce n'était pas que l'activité du groupe. L'association ne s'occupait pas que l'activité du groupe. Il y a eu aussi des projets
d'accueil y avait des
d'artistes
projets
en résidence, j'imagine d'événements aussi. Enfin, voilà, donc,
il y avait, sur l'accueil d'artistes en résidence, c'est parce que le lieu justement dans lequel on avait nos bureaux était aussi un peu un tiers-lieu finalement. On était quelques-uns à habiter sur place, on y revient. Il y avait un atelier, ce qu'on partageait avec une compagnie d'art de rue, donc il y avait aussi un atelier, l'espace de répétition, et du coup cet espace de répétition était naturellement mis à dispo pour d'autres groupes.
D'accord.
Et puis dont on s'occupait parfois effectivement de gérer toute la partie administrative des contrats de session, ce genre de choses. Donc aussi plein d'émulation, et sur le côté événementiel, c'est plus qu'ils avaient été à l'origine d'un festival qui s'appelait Tout Mêlé, qui était 100% bénévole, et il y avait un peu ce côté où dès qu'on rentrait dans le groupe, on était un peu obligé de devenir bénévole aussi pour ce festival. Et je me suis pas fait prier longtemps, je suis passée de responsable loge à membre du bureau, secrétaire de l'association assez vite. Quoi.
Ouais. Là, tu mets le pied dans le monde des festivals.
Ouais.
Et tu es déjà les deux pieds, par contre, dans une logique d'indépendance.
Oui.
Les blaireaux de Ravel, comme tu l'as dit, ils ont leur propre asso, pas de label. Le tourneur, c'était aussi eux, peut-être. Enfin, en tout cas, ils faisaient beaucoup de choses par eux-mêmes.
Ils avaient un tourneur, mais en tout cas, ils gardaient vraiment cette notion d'indépendance.
Cette notion d'indépendance qui est quelque chose qui est une valeur forte aussi du festival. Et que toi, tu défends ici au fond de la rue. Et justement, si on parle du foin, comment t'es passé, parce qu'avec les blaireaux de Ravel, t'étais dans les Yvelines, en banlieue parisienne. Comment t'es passé d'une part des Yvelines à Sainte-Gatine, et puis de la position de quelqu'un qui s'occupe des artistes à, on va dire, l'autre côté, en fait, de celui qui les reçoit dans un festival. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce projet-là?
En fait, c'est plutôt un retour à mes premières envies, puisque quand j'ai voulu travailler dans le monde musical, c'était plutôt justement du côté événementiel, salle de concert ou festival. Et puis, la vie a fait que je suis plutôt allée côté groupe. Mais c'est pour ça que l'arrivée dans Tout Mêlé n'est pas anodine, c'est que ça me faisait vraiment un équilibre sur le côté événementiel et organisation. Et puis, au bout de 7 ans, pour le coup, je commençais un peu à avoir fait le tour de ce que j'avais pu découvrir avec eux. Il n'y avait pas de perspective de développement. Le groupe avait splitté, donc il y avait quelques projets. Mais en tout cas, il n'y avait pas de développement spécifique de la structure. Donc, je commence tout bêtement à regarder ailleurs. Pas forcément en région parisienne, parce que justement, je commençais à bien connaître le réseau et pas de projet qui m'attirait plus que ça dans cette dimension un peu collective, indépendante. La région parisienne, elle reste très particulière sur le type de projet, notamment les événements, les festivals qui y sont. Et je tombe sur l'annonce du foin. Jérémy Frère, qui était administrateur à l'époque, quitte son poste. Donc je vais là-bas, je passe mes entretiens. Et à la fin du deuxième, ils me disent il va falloir que tu déménages. On t'embauche, quoi. Donc voilà.
T'étais prête.
J'étais prête.
T'étais prête justement à arriver dans une petite commune, un petit village de 1500 habitants. La dimension rurale, c'est quelque chose qui t'attirait aussi justement.
Ouais, et puis en région parisienne, en fait, on l'était déjà. Notre projet, il était implanté dans un village plutôt de 1000 habitants. Moi, je vivais dans un village de 800. Et là-bas, le monde rural, c'est y a rien. Par contre, il y a pas de commerce, il y a pas forcément de dynamique parce que c'est très sclérosé par Paris. Donc le côté rural, mais avec une dimension plutôt de, dynamique et encore des commerces à proximité. Finalement, c'était que du mieux par rapport à ce que j'avais connu.
Et pourquoi ce festival-là plus qu'un autre ? Qu'est-ce qui t'a attiré ici ? Et aussi, quelles ont été tes premières impressions quand t'es arrivé ici ? Du coup, qu'est-ce qui t'a marqué ?
Alors, le projet, forcément, puisque ça me parlait vraiment énormément, cette dimension associative, l'aspect bénévole. Et puis, le poste aussi, c'était que finalement, moi, j'ai eu un profil production-administration, mais un poste 100% administratif, je pense, m'aurait très vite embêté. Et c'est très rare d'avoir, à l'époque, quand je suis arrivée, j'avais vraiment la coordination bénévole et l'administration. C'était un peu comme si ça avait été fait pour moi par rapport à ce que je savais faire, ce que j'aimais faire. Donc, la question ne s'est pas posée entre l'adéquation que j'avais avec le projet et puis la fiche de poste où en tout cas voilà ça correspondait et l'endroit en fait je me suis pas posé de questions sur le moment, ça j'ai découvert après que en plus j'étais plutôt bien tombée sur la zone géographique.
A priori sans doute puisque ça fait 7 ans que tu es là et tu es toujours là, qu'est-ce qui te fait rester ici justement ?
Bah cette dynamique là vraiment elle est super, je pense quand on en parle, c'est pas, on parle de greenwashing, là, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais c'est pas du fake, c'est vraiment vrai cette dynamique de village là, cette période-là, le Saint-Denis commence à vivre vraiment au rythme du foin, on se croise tous. Alors par contre, faut pouvoir aussi faire des sorties ou aller au bar et entendre parler quand même de son boulot ou régler des problématiques de commandes pour
faut
le festival. Voilà,
prêt, ouais.
Les frontières entre la vie personnelle et le boulot sont fines, mais il y a vraiment cette émulation et avec d'autres associations aussi locales. Et ça, c'est hyper riche en fait au quotidien. Et l'inclusion, en tout cas, l'adaptation se fait hyper rapidement. On se croise tous sur les événements des uns, des autres. Donc c'est super, quoi.
Donc, tu évoques la dimension associative qui est très forte ici. On le disait tout à l'heure, en intro, il y a 1200 bénévoles. Il y en a une centaine qui s'investissent à l'année, ce qui est énorme. Et du coup, en fait, ça fait du foin un festival particulier qui est vraiment porté par un territoire, par ses habitants et par les gens qui s'investissent dans l'asso. Il y a plein de commissions, je faisais le point avant l'interview, il y a je sais pas combien de commissions.
Il y a 35 commissions je crois, après on a créé des comités, des groupes de travail, parce qu'on les distingue les uns des autres. Mais ouais, c'est le rythme de réunion à l'année, il est...
Ça demande un investissement très fort pour certains. Quoi.
Ouais. Franchement,
presque un mi-temps.
Ah ouais, pour certains membres du bureau ou membres du CA, c'est énorme. Et puis, et c'est sans compter leurs implications, des fois, dans d'autres assos de la commune. Donc, non, il y a un truc, ils sont tous en carton bénévole ici. C'est effectivement, c'est impressionnant, puisqu'on a les commissions plutôt opérationnelles pour le festival classique de nos responsables bar ou restauration, etc. Mais on va avoir des groupes de travail pour... typiquement, on a un groupe de travail bâtiment qui réfléchit et qui coordonne tout le chantier
de la station.
On va avoir des comités qui s'organisent plutôt des événements à l'année. Enfin, on a vraiment, finalement, des petits sous-groupes pour chaque thème.
Alors, j'ai vu qu'il y avait deux terminologies, deux groupes. Il y a les saisonnards et les festivards.
Exactement.
Donc, ceux qui vont... Festivards, bon, ça parle de soi-même, quoi. C'est ceux qui vont s'investir essentiellement sur l'événement phare, le festival. C'est ça, en fait.
Ouais, exactement. Et les autres, les saisonnards, plutôt sur les événements de saison. Parce qu'en fait, on se rend compte aussi... par rapport à l'évolution de certains dans l'association et leur période de vie. Pour certains, ce n'est plus vraiment le festival qui les fait vibrer à l'année, mais plutôt les petits événements destinés aux familles. Ça leur va bien. C'est moins compliqué à organiser aussi parce
plus
que
léger,
c'est plus léger. Il y en a qui sont... maintenant, on va créer les stationnaires plus pour le projet de la station. Et puis, dans ces groupes-là, il y a vraiment aussi la dimension de réfléchir à la suite. Parce qu'on était avant que dans l'opérationnel. Et qu'avec ces groupes de travail-là, on est aussi dans des perspectives de « ok, c'est quoi l'avenir demain ?» où on n'a pas de temporalité, mais on réfléchit un petit peu à qu'est-ce qu'on met en place dans les années à venir. Donc voilà, on a un peu sectorisé pour se répartir, nous, en tant que salariés, sur qui coordonne quel chantier. Et puis pour les bénévoles, qu'ils puissent avoir la porte d'entrée qui leur convient aussi sur leur investissement.
Ouais. Mais du coup, c'est vrai que... on n'est pas dans le modèle de l'asso avec une équipe salariée qui va avoir besoin de bénévoles à un moment pour tenir les bars, pour faire fonctionner un festival. Là, c'est l'inverse en fait. C'est vraiment un projet associatif qui est dirigé, pensé, en tout cas animé, porté par une équipe bénévole associative pour laquelle l'équipe salariée vient un peu, je le disais en intro aussi, au service.
Complètement.
De ce projet. C'est comme ça que vous vous positionnez, que tu te
positionnes,
toi.
Oui, c'est comme ça qu'on se positionne.
Même si vous avez aussi voix au chapitre et
exactement,
que vous n'êtes pas dans l'exécution.
Exactement, c'est vraiment un échange de part et d'autre. Mais en tout cas, par exemple, au conseil d'administration, il y a souvent une vigilance de la place du bénévole. Est-ce que c'est porté par un bénévole, ce nouveau projet ? nous, salariés, des fois, si on a une idée ou une envie, ouais. Bon, s'il n'y a aucun bénévole qui suit ou que ça semble déconnant, bah, elle ne sera pas forcément retenue. En tout cas, ouais, on va vraiment nous poser la question de savoir si ça part d'une envie qui est plus ancrée dans l'association. Et ouais, il y a vraiment des allers-retours, on travaille ensemble, quoi. Il y a des choses où on ne peut pas faire sans les bénévoles, et on l'a bien vu au niveau du Covid, où il y a une grosse baisse de participation comme beaucoup. L'an dernier, ça a été très dur de recréer la dynamique de préparation, et nous, ça nous met au niveau de l'équipe salariée dans un mal-être de... en fait, on n'a plus le moteur, on n'a plus le carburant pour avancer, on ne sait plus dans quel... Et ça, c'est lié aussi pourquoi on fait les choses. Ça leur demande aussi d'être très proactif et dynamique, parce que sinon, ça peut vite arrêter la machine s'ils ne viennent pas nous nourrir. Et ça, c'est le côté aussi espace de vie sociale. On est espace de vie sociale agréé par la CAF. Donc, c'est côté éducation populaire et démocratie participative. Elle est vraiment présente dans le fondement même de l'organisation du projet et comment on fonctionne, quoi.
Après, toi, en tant que salarié, et puis tes collègues, vous amenez une expertise, votre expérience, vos formations que les bénévoles n'ont pas.
Exactement.
Et c'est ça aussi que vous mettez au bénéfice de l'association. Ouais, ta connaissance aussi des enjeux du secteur. Toi, t'es intégré dans pas mal de réseaux. Voilà, ça te permet aussi d'ouvrir la focale.
Ouais, c'est ça, de venir nourrir aussi de ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'on pourrait aussi sinon voir quelque chose de très renfermé qui tourne en rond. Saint-Denis, on parle souvent d'un village gaulois.
C'est vrai.
Il y a plein de gens qui
j'ai
le
pas
voient
fait la métaphore,
comme ça,
mais
et même en interne. Mais il faut en garder que les aspects positifs de ce village gaulois, de défendre des trucs qui sont chouettes, mais il ne faut pas tomber dans l'aspect négatif, d'être que entre soi. Donc c'est bien d'amener effectivement de ce qui se passe dans les autres festivals et les enjeux du moment, quoi. I'ma go get it. Believe it. So this can last forever.
Française Kimber Rose, accueillie en 2019 au festival Au fond de la rue, dont notre invitée Lisa Bélangeon assure la coordination. On parlait, Lisa, de la dynamique associative qui porte cet asso et ce festival. C'est de cette dynamique-là aussi que sont nées toutes les valeurs et qui font aujourd'hui l'identité du festival, toutes ces innovations qui font que le festival est pionnier en matière de développement durable, notamment. Les enjeux écologiques aujourd'hui, ils ne peuvent qu'être au cœur des réflexions qu'on peut avoir lorsqu'on est à la tête d'un festival ou qu'on y travaille, parce que c'est vrai qu'un festival, c'est souvent un bilan carbone assez catastrophique, ne serait-ce que le transport du public, quoi.
Ouais, exactement. Mais là-dessus, je pense qu'on a la chance de s'être posé ces questions. Pas récemment, mais dès le début, en fait. Ouais. Donc, nous, il y a plein de choses aujourd'hui qui nous semblent complètement naturelles et sur lesquelles on a pu beaucoup avancer. Donc, finalement, là, toute la dynamique globale de réflexion de transition écologique, on ne la subit pas parce qu'en fait, on a vraiment déjà anticipé pas mal de réflexions. Depuis 2016, on est déjà accompagné sur des réductions, par exemple, de tous les carburants sur les générateurs qui alimentent en électricité le festival. Le camping est en électricité verte. Enfin, en fait, il y a des choses où on n'a pas attendu que ce soit une urgence pour y travailler parce que justement, il y a cette dynamique associative et que ce qu'on disait, c'est les bénévoles qui font l'événement, ils viennent aussi avec leurs valeurs et leurs préoccupations. Il faut remonter certains thèmes qui leur font, pour eux, qui sont chers. Comme ça qu'est née la commission Accès pour tous. Enfin, en fait, c'est vrai que c'est comme ça qu'on arrive. On parle d'innovation beaucoup aujourd'hui, mais simplement, on prend le temps d'écouter aussi les préoccupations des uns et des autres. Et souvent, étrangement, les citoyens ont beaucoup d'avance sur ce qui se passe globalement dans la société.
Cette base associative forte, bénévole forte, elle est la richesse de l'asso, parce qu'effectivement c'est elle qui a porté toutes ces réflexions, ces thématiques. Et je reviens à la question environnementale. Comme tu disais, il y a eu plein de choses précurseurs qui ont été pensées. Vous avez pensé à plein de solutions. Tu parles de l'électricité, mais il y en a plein d'autres. Est-ce qu'on peut évoquer? Alors déjà, à la base, il y a un truc, c'est le recyclage.
Ouais, c'est ça.
Là,
c'est
on est dans une pièce qui a un peu le QG de chantier de la station dont on a parlé. Donc là, c'est rempli, il n'y avait plus beaucoup de place. Plein de flycases, des fils à droite, à gauche. Voilà, comme tu disais, vous entassez un peu.
Rien ne se perd, tout se transforme chez nous. Effectivement, on récupère beaucoup.
La déco, déjà, dès le début, c'était zéro. Quoi.
Au départ, par faute de moyens, mais finalement, ça se développe comme ça et c'est rentré dans la logique. Je crois qu'ils ont moins de 3 000 euros de budget pour faire la scénographie du festival, ce qui est inconcevable pour le nombre d'événements. Et puis ça déclenche aussi pas mal de mises en lien avec des sociétés du coin où on va récupérer dans les menuiseries. Ça implique, en fait, ça a du sens parce que finalement, d'une démarche plutôt environnementale, on implique aussi d'autres gens avec nous. On fait nos produits ménagers, c'est l'occasion de faire un atelier, de faire ces produits ménagers maison. Là, ça fait 2-3 ans qu'on a signé la charte de Drastic on Plastic, donc de réfléchir à tout ce qu'on génère en déchets, comment on imagine en amont des solutions pour plus générer ces déchets-là.
Ça veut dire, par exemple, que sur la restauration, il n'y a plus de couverts en plastique.
C'est en bambou. Mais là, on va encore plus loin, parce qu'on a une éco-régisseuse depuis cette année, qui est une ancienne responsable bénévole des Michel, que le public connaît bien sur le camping. Et là, elle fait vraiment tout le travail de dimensionnement en amont et de savoir comment tous nos déchets vont être traités réellement après, puisque c'est une chose de trier, mais il faut avoir aussi l'analyse. On a appris, par exemple, que les couverts en bambou, il y a une pellicule de plastique dessus, donc c'est peut-être pas une si bonne solution à terme. Pour l'instant, on n'en a pas encore trouvé pour cette année. Là, on va tester la vaisselle réutilisable sur la soupe à l'oignon pour justement enlever tous nos contenants, même s'ils sont en canne à sucre, à terme, ce sera quand même des déchets en moins. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Le compost, il part à une éleveuse de cochons du village parce que ils sont mangés. Donc, finalement, et le plastique, les bouteilles en plastique vont être fondues par Europlastique qui est vers Laval pour faire des plaques qui pourront resservir derrière à la scénographie du festival. Donc, tout est réfléchi à chaque fois pour être utilisé, avoir le minimum d'impact. Et ça va être aussi un peu le sens de ce lieu-là et des ateliers. Ça va être de développer cette dimension-là et de pouvoir aller encore plus loin dans le réemploi et la réutilisation.
Il y a l'idée d'avoir une outil tech, j'ai vu ça.
C'est ça.
Que ça soit aussi un lieu, justement, où on puisse, si je comprends bien, venir emprunter des outils, du matériau.
Ce qui est déjà fait un peu naturellement, parce qu'on est une vraie caverne d'Alibaba entre notre matériel et nos outils. Donc, c'est vraiment de développer et puis de pouvoir un peu le structurer.
Voilà. Ouais. Que ça soit moins au coup par coup.
Exactement.
L'autre, il y en a plein, mais en tout cas, un autre axe fort et une valeur forte, c'est la question de l'accessibilité. qui était développé et porté depuis longtemps aussi.
Depuis 2010, ouais.
D'abord avec une entrée associée aux personnes en situation de handicap, ça a été vraiment, vraiment la première entrée. Ça a été ça, c'est aussi, c'est pareil, c'est les bénévoles qui ont amené ça, qui avaient ces préoccupations-là. Et il y a eu un vrai investissement humain et financier aussi, ouais. C'est pas que du temps.
C'est pas que du temps, ça en est beaucoup parce que ça demande beaucoup de réflexion et de découvrir aussi, parce qu'on a tous beaucoup d'idées préconçues sur l'accueil de personnes handicapées, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Enfin, je veux dire, accueillir des sourds en festival, on pourrait se dire c'est perdu d'avance, on n'y pense pas, mais où la réflexion que nous font beaucoup d'événements quand ils nous questionnent, c'est dire... Nous, on n'a pas de public handicapé qui vient, donc ça ne sert à rien. Mais en fait, à l'inverse, c'est si on ne met pas de dispositif en place, c'est sûr qu'ils ne viendront pas. Nous, on l'a constaté, en tout cas, qu'on a du public en situation de handicap qui vient parce qu'ils savent que ça va être adapté, ils vont être accueillis. Et il y avait cette volonté de pouvoir accueillir vraiment tout le monde et très largement, de limiter les freins. Alors, le premier frein, il est économique. Là, c'est un levier sur lequel on a du mal à jouer, notamment le prix des places. Mais on va dire qu'on essaye de mettre des choses en place, de réfléchir.
Bon, déjà parce que c'est une vraie préoccupation de se dire attention, on n'augmente pas trop les tarifs,
ouais,
parce qu'il y a une certaine catégorie de population qui ne pourra pas venir.
Bah, encore une fois, on est en zone rurale, donc l'idée c'est de rester accessible. Après, on en reparlera, mais l'économie en ce moment fait que voilà, il y a des choix des fois qu'on n'a pas le choix de faire.
Des réalités.
Des réalités. Mais pareil sur les tarifs de restauration, de consommation, c'est encore tout bénévole derrière nos bars, donc ça nous permet aussi de proposer de manger à partir de 3 euros 50 sur le festival, ce qui devient de plus en plus rare, je pense, dans beaucoup d'événements. Donc, c'est vraiment une préoccupation permanente sur tout ce qu'on met en place. Ou pareil, on peut parler des violences sexistes et sexuelles, de se dire qu'une femme doit se sentir aussi bienvenue et aussi bien accueillie qu'un homme, ou pas se poser de questions. Cette année, on a mis le tarif enfant en place pour que justement les familles se disent ah ben, ok, là je peux venir avec mon enfant, ça me coûte 1 euro ou 2 euros, et que ça reste aussi un événement familial. Quoi.
Du coup, deviennent très très accessibles pour les familles.
C'est ça. Bah, avant, c'était gratuit pour les moins de 12 ans. Et en fait, on nous a fait la réflexion maintenant avec tous les e-pass, pass jeunes, que de 13 à 15 ans, en fait, tout d'un coup, il y avait un trou dans la raquette. Donc, on a réfléchi à comment on fait en sorte de combler ce trou sans non plus prendre trop de risques financiers. Donc, on a mis ce tarif-là en place pour que jusqu'au moment où finalement ils ont leur pass collégien ou lycéen, ils peuvent venir avec leurs parents sans que ça crée une difficulté trop importante.
C'est ça, l'accessibilité au sens large, effectivement, des personnes qui sont en situation d'handicap, mais de toutes les générations,
oui,
avec le plus large possible aussi de revenus, de moyens. Et puis, c'est aussi le sens de l'accueil, quoi, qui fait partie du festival. Enfin, voilà, justement, cette déco, le fait qu'on arrive sur un site qui est vraiment pensé pour être convivial, accueillant, beau. Il y a vraiment ce sens de l'accueil super fort. Les gens viennent pour ça aussi.
C'est ça, je pense. Et puis la convivialité, là, c'est aussi intrinsèque au fait que ce soit des bénévoles qui soient partout, dans tous les postes, finalement. Quasiment derrière tous les stands, aux entrées, etc. Y a les gens déjà qui accueillent sont contents d'être là parce qu'ils se font plaisir. C'est déjà une grosse colo et une grande bande de copains qui se retrouvent
facilement. Quand on travaille, on n'est pas content.
Non, c'est pas ça, mais c'est vraiment qu'il y a cette dimension collective. Ils sont volontaires pour être là. S'ils viennent, c'est parce qu'ils se font plaisir eux-mêmes. Je pense qu'il y a quand même change.
C'est sûr.
C'est une autre relation. Et puis, on le sait, le foin, tu as cette énergie. Moi, on m'a toujours dit que c'était l'événement estival sur lequel tout le monde se retrouvait, où les gens étaient sûrs de croiser leurs anciens copains de lycée. Les gens viennent fêter leur bac. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette convivialité-là et cet attachement qui est un peu la force du foin aussi.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux, même des plus beaux amours heureux. On a beau croire qu'on a gros ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares? Tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement. cage va certainement dévaler. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour. Ces gens-là sont du genre très beau parleur, la guicheur, l'allumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Tout se passe tout doucement dans ses murmures, le serpent, et après la colère, il vous jure que ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. C'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Silencieusement pour arriver finalement à, au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
Les dormantes Zao de Sagazan, qui sera à l'affiche de la prochaine édition du festival Au Foin de la Rue les 7 et 8 juillet 2023. Aux côtés d'artistes phares comme Tiefen, Lorenzo, Meut, Big Flo et Oli bien sûr, mais aussi plein d'autres artistes à découvrir. C'est ce qui fait l'identité du festival justement, c'est privilégier aussi les découvertes, pas être que sur une ribambelle, une brochette de tête d'affiche qu'on voit partout, mais justement aussi défendre l'émergence, la découverte, la diversité aussi. Musical, artistique.
Ouais, et c'est un casse-tête hein, de plus en plus sur ces équilibres-là, parce que aussi on est passé à 3 scènes là depuis 2022, depuis la reprise du Covid, ouais. Par manque d'espace sur le site, puisqu'il y a des lotissements qui se sont construits, donc on a moins d'espace qu'avant, on a dû réduire à 3 scènes, des raisons économiques aussi. Et depuis cette contrainte-là, la commission programmation, parce que là aussi on a une commission bénévole et un programmateur professionnel, il s'arrache les cheveux.
C'est pas le fait
que
d'impro en fait la prog, c'est aussi partagé.
C'est vraiment des échanges avec une commission où il y a 10 à 15 membres, femmes, hommes, toutes générations. Et du coup, c'est vrai que ça bataille aussi sur les styles musicaux, les équilibres, les générations à qui s'adressent les groupes. Donc il y a beaucoup de points de vigilance et qu'en faire un vrai casse-tête, puisque la programmation de base c'est pas évident, parce qu'il faut quand même concilier l'aspect budgétaire, les disponibilités. Donc en plus quand on met 15 personnes qui débattent, c'est long, chez nous c'est long.
Ouais, tu m'étonnes. Mais en même temps c'est chouette parce que du coup plus t'as une base associative, je reviens là-dessus, étayée, diversifiée, plus justement tu vas avoir une programmation qui va être le reflet de ça et aussi de la société, quoi, des envies des gens, et du coup tu peux être certains aussi de toucher large en fait.
Ouais, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire. On verra si le pari est gagné ou pas, parce que c'est vrai que là on voit une énorme émergence du rap et de la musique urbaine, que pour le coup dans la commission il y a l'envie de que ça reste équilibré entre les styles musicaux. Donc pour l'instant on fait ce pari là, on espère qu'il soit gagnant, et parce que ce qui nous intéresse c'est aussi la mixité des publics, quoi. Justement que ça se rencontre, que ça aille découvrir. On écoutait Zao de Sagazan, c'est marrant, quand elle a été mise à l'affiche en octobre, quand on l'a programmée, c'était pas du tout connu, personne ne savait. Quand on l'a annoncé, personne ne connaissait ce nom. Et aujourd'hui,
elle a décollé d'un coup. Là.
Elle va être sur la petite scène. Je pense que ça va être assez fou ce qu'on va voir en termes de public devant par rapport à la taille de l'espace. Mais c'est ça, c'est aussi des beaux moments de découverte et de débats, de gros débats sur effectivement l'équilibre aussi dans les genres, sur au-delà, pas les styles musicaux, mais les groupes féminins ou masculins. Enfin, on a plein de débats au moment de faire cette programmation qui sont hyper intéressants et qui reflètent aussi la société.
Le festival, c'est d'abord un lieu de musique, quoi. Ouais. Donc si on parle pas d'artistique et si on parle que du tarif des frites, l'essence du truc, il est là aussi.
Complètement. Mais justement, nous, on a un gros problème pour définir notre ligne artistique. Quand on a changé de programmateur et que Thierry est arrivé, on ne sait pas en fait le dire. Enfin,
alors, c'est quoi votre ligne? Il vous a posé
pas,
la question.
Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Et puis aujourd'hui, quand ils débattent de groupe dans la commission programmation, c'est ah oui, ça c'est foin, ça c'est pas foin compatible. Enfin, ça veut rien dire en fait. Mais nous, ouais, on voit ce qu'on veut dire. Ouais. Mais c'est, enfin, en soi, ça veut rien dire. Objectivement, c'est très subjectif, quoi.
Mais c'est très varié, c'est très diversifié. Je trouve que la prog de cette année, justement, elle arrive bien, ce mélange-là, entre des trucs qui sont dans l'actu, des trucs qui sont moins dans l'actu, des genres des musicaux très différents. Et je trouve que le cocktail a l'air bien réussi. Est-ce que ça se confirme sur,
ouais, ça se confirme,
sur les
résas
et tout ?
L'engouement est bénévole et public sur l'achat des places, ça semble se confirmer. Donc là, on touche du bois, nous on a la particularité où les gens sont pas toujours en avance pour prendre leur place, donc on se fait toujours des frayeurs, on vend 50% des plages jusqu'à une semaine avant et 50% restant après.
Ouais.
Là, cette année, on sent vraiment un engouement où on a au moins 3 ou 4 semaines d'avance par rapport à d'habitude, donc c'est cool. Je pense que sur la fin, on va plus être sur... là, en tout cas, vu ce qu'il y a déjà de vendu, le mois de juin, ça va vite s'affoler, je pense, en termes de remplissage.
Et tu parlais des difficultés à programmer. Ce qui rend aussi les choses difficiles et peut-être plus difficiles qu'elles n'ont été, c'est aussi l'inflation que d'une part qu'ont connu les prix en général là, et qui rendent difficile d'organiser un événement, mais en plus il y a une inflation énorme des cachets artistiques. On a une augmentation de à peu près 45% entre aujourd'hui et 2018 sur 4 ans, 5 ans. Donc ça devient difficile aussi d'aller chercher cette fameuse tête d'affiche qui vont aussi quand même ramener du public et assurer la fréquentation. Et d'autre part, il y a aussi la concurrence de gros festivals qui sont arrivés depuis une quinzaine d'années, qui sont plus des festivals associatifs, qui ont des moyens énormes et qui du coup peuvent aussi faire monter les enchères.
Ah bah clairement, notre milieu il a vraiment changé depuis le début des années 2000 où les festivals comme les nôtres se sont montés. Ça n'a plus rien à voir. Enfin, il y a plein de festivals aujourd'hui qui sont clairement dans le champ plutôt de l'industrie musicale et voilà, qu'on défend marketing ou en tout cas de rentabilité importante. Et sauf que nous, c'est les mêmes artistes potentiellement qu'on programme.
Oui.
Pas tous exactement, mais en tout cas, les artistes peuvent être amenés à jouer dans différents festivals sans faire de différence, sauf qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens financiers. Donc quand les gens attendent absolument des gros noms, c'est pas possible pour nous. Des fois, leur cachet artistique, ça représente la totalité de notre budget programmation. Nous, en plus, on est assez peu subventionnés puisque le festival s'autofinance à 80%. Donc c'est vraiment la billetterie, les entrées de restauration et de bar qui financent la grosse partie de la machine foin de la rue. Donc il faut trouver l'équilibre entre aller chercher des artistes qui plaisent, qui vont faire venir du monde et sans non plus payer ou aller payer une fortune, parce que demain le billet il sera 80€ au jour quoi, si on veut s'en sortir. Donc c'est cet équilibre qui est assez compliqué à tenir et puis effectivement on n'a pas, tous ne défendent pas les mêmes valeurs, tous ne font pas de l'accessibilité en plus dans leur budget, donc on se met aussi des contraintes et on parle pas d'écologie non, sur ces manifestations là effectivement c'est
ça
pas,
pose quand même question des événements qui vont rassembler des dizaines de millions de milliers de personnes. Voilà, est-ce que c'est le modèle à suivre aujourd'hui
dans la situation
environnementale dans laquelle on est?
En fait, on sait que ce qui est le plus polluant, c'est le déplacement du public. Donc effectivement, si on fait que des gros événements de centaines de milliers de personnes, pas du tout à proximité des gens, à un moment donné, effectivement, l'empreinte carbone va être énorme plutôt que d'être en toute proximité. Donc il va falloir un peu réfléchir et questionner ces modèles-là. Mais le problème, c'est que ces modèles-là, souvent, sont tenus par des sociétés privées qui ne sont pas du tout dans les mêmes réflexions que nous d'un point de vue culturel. Il y a aussi beaucoup d'événements qui sont tenus par des groupes type Vivendi, Lagardère. Les gens ne le savent pas, mais quand ils se posent ces questions-là et qu'ils affrontent Bolloré ou autre, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de manifestations en France et souvent les plus grosses, c'est ces groupes privés-là. Donc on ne peut pas comparer une association comme la nôtre à ces événements-là. C'est comme comparer son producteur de miel à côté de chez soi ou Carrefour. À un moment, ça n'a pas de sens.
Qui sont aussi en général ces entreprises elles-mêmes tourneurs, producteurs d'artistes. Donc il y a une sorte de boucle qui se boucle. Qui crée aussi une vraie, enfin quelque chose de vraiment pas vertueux là pour le coup.
Non, bah on est vraiment sur des histoires qui sont plus propres, on va dire à des champs de l'économie, mais on est sur des monopoles qui commencent effectivement à être un peu flippants quand on regarde ça de notre point de vue associatif.
C'est très concentré. En plus.
C'est très concentré. Ouais, ouais. Ils ont effectivement, enfin ils gèrent les artistes, ils gèrent les zéniths, ils gèrent des sociétés de billetterie, donc ils collectent aussi les données du public qui va en concert quand ils achètent pas sur notre site internet. Ils donnent ces données-là à ces mêmes groupes qui possèdent les festivals, les tourneurs, les zéniths. Donc forcément, à un moment donné, ils peuvent avoir des moyens décuplés par rapport aux nôtres et un peu impacter aussi finalement ce qu'attend le public. Et on oublie aussi les médias. Ils possèdent aussi des médias, des radios. Donc ils ont le champ libre, en tout cas, pour faire qui sera la star de demain et qu'est-ce que les gens auront envie d'écouter.
Et justement, quand on est un spectateur du foin, on achète son billet peut-être aussi, ou on devrait en tout cas l'acheter aussi, en connaissant tout ça. Enfin, en se disant, ce que je viens voir, c'est pas juste... quand je viens au foin, c'est pas juste pour voir des artistes en buvant une bière, c'est aussi un modèle que je défends, quoi.
Bah, c'est ça, c'est qu'on essaye, là, nous on est membre d'un syndicat qui s'appelle le SMA, le syndicat des musiques actuelles, qui représente que des petites structures ou moyennes structures, et on a lancé une campagne qui s'appelle « Vous n'êtes pas là par hasard », alors qui est très compliquée à mettre en avant auprès du public, parce que ça reste assez technique d'expliquer un peu les enjeux de notre profession.
Ouais.
Mais l'idée c'est ça, c'est en fait, aujourd'hui les consommateurs font attention à plein de niveaux sur justement ce qu'ils achètent dans le quotidien, et aujourd'hui il faudrait commencer à faire attention à là où on sort aussi, justement, et qu'est-ce qu'on vient financer, qu'est-ce qu'on soutient en étant spectateur. C'est effectivement pas la même chose d'aller voir un artiste en zénith ou sur un festival associatif, indépendant, qui va plutôt essayer de mettre en place des actions culturelles, qui va faire vivre son territoire. Voilà, nous, il n'y a pas d'actionnaire derrière. Quand on paye sa bière ou sa place, ça ne vient pas effectivement grossir un compte en banque de gens qui n'en ont pas besoin.
Du maire de Sainte-Gatine.
Non, bah alors, non, pas du tout. Ça, c'est clair que non.
Tu parlais d'avenir tout à l'heure. Tu disais, on réfléchit aux perspectives. Et justement, dans ce contexte-là, qui n'est pas hyper fun, que tu viens de décrire, comment tu vois l'avenir de festivals comme les vôtres? Il y en a plein d'autres en Mayenne, et puis en France. Et puis en particulier du foin, est-ce que c'est diversifier ses activités justement pour peut-être diversifier ses financements? C'est quoi comment
beaucoup,
tu vois l'avenir?
On est beaucoup à se poser la question et on n'a pas encore la réponse parce que ça avance très vite. Mais nous, oui, je pense qu'il y a aussi, en tout cas dans le projet de la station, il y a cette réflexion-là de se miser aussi sur une diversification des activités et notamment de garder, même si demain il arrive quelque chose au festival, au moins il restera quelque chose d'ancré, parce que je pense qu'il y a vraiment la volonté aussi de faire perdurer une dynamique sur un territoire. Il y a cet enjeu-là pour nous. Donc si le festival n'est plus le bon endroit ou n'est plus possible, en tout cas pour une raison X ou Y, il restera ça. Après, nous, c'est quand même notre phare et notre colonne vertébrale à l'année, donc on va se battre jusqu'au bout. Mais clairement, les équations, elles sont de plus en plus compliquées. Même les réglementations, hein, on nous impose de plus en plus de réglementations qui sont quasiment intenables à nos échelles. Donc pour l'instant, on lutte vaillamment, on explique nos enjeux et puis on essaye de trouver en tout cas les bons équilibres économiques. Mais c'est un peu au jour le jour. Enfin, en tout cas, c'est année par année et on n'a pas de réponse plus que ça. On essaie plutôt, nous, de se battre là pour nous faire aussi plus aider par les collectivités, l'État, d'expliquer un peu le sens du projet et d'essayer de faire en sorte que l'association perdure et ne soit pas en danger dans les années à venir, quoi.
Donc, il faut aller au fin de la rue cette année, les 7 et 8 juillet, soutenir ce superbe projet. Merci Lisa pour cette heure passée ensemble.
Merci beaucoup.
Pour cette visite de la future station. Un grand merci aussi à Anthony ainsi qu'à Joël à l'autre radio pour le montage de cette interview. Interview que vous pourrez retrouver en podcast, en replay sur notre site transistor.org ainsi que toutes nos précédentes émissions. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. D'ici là, faites de beaux rêves.